I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après les mesures d'aide aux particuliers ou aux entreprises ces dernières années, suite aux gilets jaunes en 2018, à l'épidémie de Covid à partir de 2020, ou après la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022, le gouvernement français prépare aujourd'hui des mesures d'économie. 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès cette année ont encore été annoncés le mercredi 10 avril. L'État veut réduire ses dépenses au total en 2024 de 20 milliards d'euros. Alors pourquoi ces mesures sont-elles présentées comme nécessaires? Quel est le niveau de la dette publique en France aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-elle fait qu'augmenter depuis 200 ans? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service économie et sociale du Parisien, Erwan Benezé et Sébastien Lernoux qui dirigent ce service. Le dimanche 18 février, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est aux 20h de TF1 et il annonce 10 milliards d'économies dès cette année.
Nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. C'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économies pour tenir compte de ce nouveau contexte géopolitique.
Sébastien Lernoux, ces dernières semaines, le gouvernement a acté plusieurs mesures d'économie. Lesquelles ?
Il a par exemple décidé de réduire l'enveloppe dédiée à MaPrimeRénov, c'est le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Il a aussi décidé de baisser les aides à l'accès au logement. Le budget du ministère du Travail va être également raboté. Il a aussi décidé de réduire les crédits alloués à certains organismes culturels comme l'Opéra de Paris ou la Comédie Française.
Alors on va voir comment on en est arrivé là et les autres mesures d'économie qui sont pour l'instant seulement des pistes, celles qui pourraient être annoncées dans un second temps. Mais pour bien comprendre, on a choisi de commencer ce podcast le jeudi 5 avril 2018. Ce jour-là, Emmanuel Macron visite un hôpital à Rouen en Seine-Maritime et il est interpellé sur le manque de moyens dans les hôpitaux. Erwan Benezé, décrivez-nous cette scène.
Comme d'habitude, dans ce genre de déplacement, il est ailé, interpellé par des gens qui sont là sur place. Une aide-soignante lui décrit ses conditions de travail. Elle lui demande des moyens supplémentaires pour l'hôpital.
Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent.
Et je serai là au mois de mai.
Des moyens dans les budgets.
Et il lui répond...
Il n'y a pas d'argent magique. Un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public suffisamment et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire. C'est vos enfants qui le payent quand ce n'est pas vous.
Le déficit public, c'est beaucoup les banques.
En gros, que les moyens de financement de l'État sont limités et donc il n'y aura pas d'argent en plus pour l'hôpital.
Avant d'aller plus loin, il faut faire la différence entre le déficit public et la dette publique. D'abord, c'est quoi le déficit ?
Alors, le déficit, c'est la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Quand les recettes sont inférieures aux dépenses, c'est-à-dire que les recettes ne sont pas suffisantes pour financer le fonctionnement de l'État, on appelle ça le déficit public.
Et finalement, chaque année, l'État dépense plus qu'il ne récolte d'argent, c'est ça ?
Effectivement, ça fait 50 ans que l'État dépense plus qu'il ne touche comme recettes.
Et donc la dette publique, c'est quoi par rapport à ce déficit ?
La dette publique, c'est l'accumulation de ces déficits publics cumulés au fil des ans. La dette, c'est le stock, c'est l'addition de tous ces déficits publics.
Parce que l'État doit emprunter pour avoir de l'argent chaque année.
Effectivement, si les recettes fiscales ne sont pas suffisantes, l'État va sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent manquant.
En général, la France n'a pas de problème pour emprunter. Il faut dire que la dernière fois que le pays a été en situation de banqueroute, c'était au XVIIIe siècle. Rappelez-nous ça.
C'est ce qu'on a appelé la banqueroute des deux tiers. On est en 1797, 8 ans après la prise de la Bastille. La France est sous le régime du Directoire. Et les guerres successives des dernières années ont ruiné le pays qui accumule une dette record déjà à l'époque. Et le ministre des Finances décide de garantir seulement un tiers de la dette publique. Les deux tiers restants sont effacés d'un trait de plume. Alors, je tiens à dire que techniquement, un pays ne peut pas faire faillite. Hein. Contrairement à une entreprise, il ne s'arrête pas de fonctionner du jour au lendemain. En revanche, un État peut être en défaut de paiement, c'est-à-dire qu'il est incapable d'honorer le remboursement de sa dette.
C'est ce qui s'était passé en Grèce en 2009, par exemple ?
C'est par exemple ce qui est arrivé en Grèce, ce qui est arrivé aussi en Russie il y a 2 ans. En fait, quasiment tous les pays du monde entier ont connu à un moment ou à un autre un défaut de paiement, même les États-Unis en 1933.
Dans l'histoire plus récente, c'est dans les années 1970 que l'on commence à parler du problème de la dette. L'économie de la France est au point mort à cause du choc pétrolier de 1973, l'envolée du prix des carburants. Et en 1975, Sébastien Lernoux, le président Valéry Giscard d'Estaing, annonce un grand plan de relance de l'économie.
Oui, il annonce que la France va investir dans une filière nucléaire. Il annonce également que la France va développer le programme du TGV. Ça coûte énormément d'argent à l'époque, des milliards de francs. Et donc, pour lancer ce plan d'investissement, la France est obligée de creuser son déficit et qui, donc, du coup, fait augmenter la dette française.
Sous l'ensemble des présidents qui vont suivre, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, la dette publique, donc le total du montant que doit le pays, ne fait qu'augmenter.
De gauche comme de droite, hein, tous les présidents de la République à partir des années 70 ont pris l'habitude de financer leur politique en recourant à la dette. On calcule souvent la dette en pourcentage de la richesse créée par le pays, hein, c'est le fameux PIB. Alors, sous François Mitterrand, la dette atteint 21% du PIB. Elle est de 60% sous Jacques Chirac. Elle atteint 90% sous Nicolas Sarkozy. 98% sous François Hollande en 2016.
Emmanuel Macron est élu président la première fois en mai 2017. Au départ, Erwan Beneze, comment évolue la dette avec ce nouveau président ?
Elle gonfle toujours. Alors, en dépit d'un contexte qui a été facilité pour le nouveau président Emmanuel Macron, puisque sous l'ancien quinquennat, et notamment sous le gouvernement Valls, on avait initié un large plan de baisse des dépenses de 50 milliards d'euros, et ça avait permis au déficit de se résorber en partie. On passe même, au moment où Emmanuel Macron arrive à la présidence, sous la barre des 3%. Ça veut dire que la différence entre les dépenses et les recettes sont un peu moins importantes qu'auparavant. Ça n'empêche pas la dette de continuer de filer et de dépasser à ce moment-là le seuil très symbolique des 2000 milliards d'euros. C'est donc quasiment l'équivalent de la richesse produite sur une année et c'est donc très près des 100% du ratio entre la dette et le PIB.
Arrive la crise des Gilets jaunes à partir de novembre 2018. En réaction, Emmanuel Macron annonce une série de mesures d'urgence comme la revalorisation de la prime d'activité ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Et un peu plus d'un an plus tard, c'est l'épidémie de Covid qui débute. Le jeudi 12 mars 2020, 4 jours avant la mise en place du confinement, Emmanuel Macron intervient à la télévision et il martèle que l'État va soutenir l'économie et les Français.
La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte.
Alors on assiste à un véritable virage à 180 degrés. Hein. 2 ans auparavant, il expliquait encore que l'argent magique, ça n'existe pas. Et le voilà qui va débloquer tous les soutiens financiers qu'il faudra. Ce 12 mars 2020, il annonce aux 25 millions de Français qui sont massés devant leur écran, le visage grave, que l'épidémie de Covid n'en est qu'à ses débuts, mais que l'exécutif sera là et qu'il va instaurer, je cite, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel qui va faciliter des prêts garantis par l'État, les fameux PGE, à destination des entreprises. C'est le début du fameux « quoi qu'il en coûte » qu'il répète pendant son allocution à 3 reprises et 4 jours plus tard, le président décrète un confinement généralisé.
Comment ça se traduit en France, ce « quoi qu'il en coûte » ?
Pour donner quelques chiffres, en août 2021, après les confinements, le ministre de l'économie Bruno Le Maire chiffre très précisément les dépenses, 80 milliards d'euros sous la forme de chômage partiel, exonération de charges, la constitution d'un fonds de solidarité et 160 milliards d'euros sous la forme de prêts aux entreprises. Au total, pour faire face à la crise Covid, l'État, la France, a dépensé plus de 240 milliards d'euros.
Et à partir de février 2022, la Russie de Vladimir Poutine envahit l'Ukraine.
À nouveau, ça provoque d'autres crises en cascade. D'abord, une flambée des prix de l'énergie et plus tard, consécutivement, une inflation très forte. Le gouvernement craint par-dessus tout l'arrêt de l'économie française. Donc d'abord, il protège les Français, notamment avec un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, le gaz et l'électricité. En gros, il limite ce que payent les Français sur leurs factures. Il rembourse la différence aux fournisseurs. Et puis, il met en place différents plans pour accompagner les entreprises, pour que les entreprises puissent continuer à investir et donc à produire et ce qui est de la croissance.
Erwan Beneze, ces aides massives de l'État à l'économie française ont bien sûr une conséquence sur la dette publique.
Elle plonge. Entre 2017 et 2023, cette dette publique de la France se creuse de plus de 850 milliards d'euros. Alors résultat, elle dépasse un seuil qui jusque-là semblait inimaginable. En 2023, elle va dépasser les 3 000 milliards d'euros.
Et la dette représente cette année-là plus de 110% du PIB, les richesses produites par le pays. Sébastien Lernoux, on l'a bien compris, la France doit emprunter de l'argent, mais comment ça se passe concrètement ?
La dette publique, elle est gérée par l'agence France Trésor qui est rattachée au ministère de l'économie. Chaque mois, l'agence France Trésor émet des obligations d'État sur les marchés financiers. Donc c'est par ce véhicule-là que les marchés financiers peuvent investir dans la dette française. Alors ça fonctionne un peu comme un crédit immobilier pour un particulier. On prête de l'argent à la France, il y a un taux d'intérêt et puis il y a une date d'échéance. Alors à la différence d'un crédit immobilier qui va jusqu'à 25 ans, ça, ces obligations d'État peuvent aller jusqu'à 50 ans.
À qui la France emprunte ?
La moitié des investisseurs sur la dette française sont des investisseurs étrangers. Alors précisément, on ne peut pas le savoir hein, parce que c'est protégé par le Code du commerce, mais on dit que ce sont des fonds de pension, que ce sont aussi d'autres États, des banques, des assurances étrangères. L'autre moitié est détenue par des acteurs français. Il y a des banques, il y a des assurances. Il y a aussi la Banque de France qui détient 25% de la dette française.
Sébastien Lernoux, à partir du début de l'année 2024, la question des économies que l'État va devoir faire revient de plus en plus souvent dans l'actualité.
Oui, car c'est à ce moment-là que l'État se rend compte qu'il ne va pas réussir à tenir ses objectifs. La croissance est molle et donc les rentrées fiscales comme la TVA ou l'impôt sur les sociétés sont moins bons que prévu. Et comme les recettes sont faibles, eh bien le gouvernement commence à faire passer le message qu'il va falloir réduire les dépenses et donc faire des économies.
Erwan Beneze, pendant toute l'année 2023, le gouvernement français avait tablé sur une prévision de déficit public, donc le déficit sur un an, plutôt optimiste.
Effectivement, fixé à 4,9%. Un tel niveau si bas semble aujourd'hui rétrospectivement un peu relevé de la méthode Coué, parce que annoncer dès la fin 2023 que le déficit serait pire que prévu, c'était craindre d'enclencher une sorte de cercle vicieux en touchant au moral des Français, qui risquaient donc d'épargner plus, de consommer moins. On accentuerait encore le déficit et donc le gouvernement ne veut pas annoncer des nouvelles trop mauvaises. Et donc il table encore à ce moment-là sur ces fameux 4,9% de déficit.
Erwan Beneze, le mardi 26 mars, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, annonce à combien s'établit le déficit public en 2023.
La sanction tombe, il sera finalement à 5,5%. Je le rappelle, c'est les dépenses moins les recettes et on fait le ratio avec la richesse nationale, le PIB. Et donc là, on est à 5,5% quand tout le budget pour 2024 s'était appuyé sur des prévisions à 4,9%. Et donc, il va falloir repenser ce budget pour que ça rentre dans les clous.
5,5% de déficit alors que le gouvernement tablait sur 4,9%. Concrètement, ça veut dire quoi si on parle en milliards ?
Ça représente un écart de 20 milliards d'euros entre les prévisions et la réalité.
La dette publique de la France, donc l'ensemble des déficits accumulés, grandit encore. Elle s'établit en 2023 à plus de 3 000 milliards d'euros, un peu plus de 3 100 milliards. Sébastien Lernoux, à ce stade du podcast, il faut parler de ce qu'on appelle la charge de la dette. C'est quoi ?
La charge de la dette, c'est ce que nous coûte la dette chaque année. Cette année, on va devoir rembourser 50 milliards d'euros pour cette dette. C'est le quatrième poste de dépense après l'éducation, après les crédits d'impôt, après le financement de la défense. Et selon les projections, en 2027, ce sera le premier poste de dépense. Parce qu'en plus, il y a un effet boule de neige. C'est que plus la dette grossit et plus on est obligé d'emprunter pour rembourser cette dette. En fait, hein, on ne rembourse pas cette dette avec de l'argent qu'on a, on emprunte encore pour pouvoir reporter dans le temps la dette. Hein. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette. Et bah, plus on fait rouler cette dette, plus elle grossit comme une boule de neige.
Avec un déficit et une dette publique de cette ampleur, est-ce que la France risque de ne plus pouvoir emprunter ?
Effectivement, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a un moment, il va y avoir une rupture de confiance entre la France et les investisseurs. Et c'est pour ça que, en fait, le gouvernement est obligé de montrer aux marchés financiers qu'il gère bien son budget, qu'il fait des efforts. On est vraiment dans la psychologie, hein. Il faut montrer aux investisseurs qu'on maîtrise nos dépenses et que, dans le temps, on sera capable de rembourser notre dette.
Les investisseurs, pour estimer le risque que représente le fait de prêter de l'argent à la France, ils se basent notamment sur le travail des agences de notation, c'est ça, Erwan Benezé ?
Alors effectivement, pour ces investisseurs-là, c'est un indicateur très important, ces agences de notation. Il en existe trois principales dans le monde. En quoi consiste leur travail ? C'est de jauger la solvabilité d'un État, en l'occurrence ici la France, sa capacité à emprunter et surtout après à rembourser. Donc plus la note est basse, plus les taux augmentent et donc avec eux les montants des remboursements. Plus ça va coûter cher d'emprunter pour la France. On parlait tout à l'heure de la charge de la dette. Le risque, il est là. Le risque, il est que plus la note est dégradée, plus ça sera compliqué pour la France d'emprunter et de rembourser sa dette. Plus ça va lui coûter cher pour mettre en place ses politiques publiques.
Et les agences de notation, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, vont dévoiler la nouvelle note qu'ils attribuent à la France entre fin avril et fin mai. Erwan Benezé, le jour où l'INSEE a donné le chiffre du déficit pour 2023, donc le mardi 26 mars, Gabriel Attal est à la tribune de l'Assemblée nationale pour la séance des questions au gouvernement et il est très clair sur la volonté du gouvernement français de faire des économies.
Il répond notamment à une charge très virulente de l'opposition, Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui traite le gouvernement de cancre de l'Union européenne.
La Grèce, le Portugal sont en dessous des 3%, l'Espagne y arrive, l'Italie en 2025. Vous êtes les cancres de l'Union européenne, les seuls à connaître cette déroute financière.
Alors, face à cette charge, Gabriel Attal se sent obligé de parler par deux fois de rigueur. Il dit « Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité. »
Monsieur Marleix, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail.
Et il parle d'une très grande rigueur dans les choix qu'il va faire.
La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique. Que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons, parce que c'est du bon sens, quand vous avez moins de recettes, il faut ajuster vos dépenses, et je pense que les Français l'ont très bien compris.
Ce mot de rigueur, qui est très clair pour tout le monde, pourquoi est-ce qu'il l'emploie ?
Au-delà de répondre à la charge virulente de l'opposition, c'est également un message qui est envoyé aux agences de notation, aux marchés, mais également à l'Europe, pour montrer que la France tient toujours son budget.
On le disait au début de cet épisode de Code Source, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a donc annoncé dans un premier temps 10 milliards d'euros d'économies cette année, avec les mesures que l'on a déjà évoquées. Sébastien Lernoux, on le disait également, il y a d'autres pistes d'économies qui sont à l'étude actuellement.
Vous avez parlé de 10 milliards d'euros d'économies. On estime qu'il va falloir encore 10 autres milliards d'euros d'économies dès cette année pour boucler le budget. 20 milliards d'euros supplémentaires l'an prochain. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est un peu le concours Lépine pour l'instant. On nous annonce une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On parle aussi de faire des économies sur le transport sanitaire, de revoir les jours de carence en cas d'arrêt maladie. On évoque aussi une sous-indexation des prestations sociales et des retraites sur l'inflation, c'est-à-dire qu'elles seraient moins revalorisées que la hausse générale des prix.
Merci à Sébastien Lernoux et Erwan Benezé. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Et chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous mettre une note ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.
Hold up.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.